BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, on va parler de l'attractivité des métiers du nucléaire. Comment répondre aux besoins colossaux, et le mot est faible, de recrutement? C'est ce qu'on va demander à Cécile Arbouille, elle est déléguée générale du GIFUN, c'est le syndicat professionnel de l'industrie. Et puis on va parler mobilité avec la première salariée de Blablacar qui a lancé sa start-up. Ça s'appelle 1 km à pied. Elle va nous expliquer son concept dans un instant. Et puis on va parler avantages salariés avec une nouvelle solution, Bimply, qui est sorti il y a quelques mois pour vous faciliter la vie. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Cécile Arbouille, déléguée générale du GIFUN. Bonjour, c'est le syndicat professionnel de l'industrie nucléaire parce qu'on va parler des besoins en recrutement de cette filière et ils sont extrêmement nombreux. Vous cherchez tout. Tous les profils, les ingénieurs, les soudeurs, 3200 entreprises dans la filière. Tout le monde là-dedans cherche du monde à recruter.
Alors effectivement, on a besoin de beaucoup de compétences dans la filière. On recrute déjà plusieurs milliers de personnes par an. Et comme vous le savez, Emmanuel Macron a annoncé un grand programme de relance de construction de nouvelles centrales, de maintien le plus longtemps possible des centrales existantes. Et pour ça, on va avoir besoin d'encore plus de talents qu'aujourd'hui. Donc effectivement, on recrute au niveau CAP, au niveau BAC, au niveau BAC plus 2, au niveau ingénieur. Et on a plus de 100 métiers dans la filière dans lequel on va avoir besoin donc de tout le monde. Voilà.
Il y a les projets futurs, ce qu'a annoncé évidemment le président Laplume, mais aussi le fonctionnement actuel de l'ensemble des centrales. Est-ce qu'il faut expliquer aujourd'hui aux futurs recrutés de la filière nucléaire justement l'impact filière, le fait de travailler pour le nucléaire comme si on travaillait pas pour la France parce que c'est pas pour l'armée, mais est-ce qu'il faut faire comprendre à quel point on est un petit point dans quelque chose de plus grand que soi?
Oui, tout à fait, et c'est un des grands intérêts d'être employé dans cette filière, c'est-à-dire que c'est une filière dans laquelle les gens ont une fierté à travailler parce que on produit de l'électricité pour tous les Français où qu'ils soient sur le territoire à un tarif compétitif, et surtout dans le contexte actuel, c'est une électricité qui est totalement qui est décarbonée. Donc on voit d'ailleurs que dans la filière, il y a peu de turnover, il y a deux fois moins de turnover que dans les autres filières industrielles parce que il y a cette fierté et il y a cette satisfaction de trouver des métiers qui ont un sens. C'est une réalité.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut expliquer à quoi ça sert, comment on construit l'énergie, à quoi ça sert in fine?
Oui, on a certainement des efforts d'explication à faire sur comment on fabrique l'électricité. Et donc, ça se fait dans des centrales où il y a tout un certain nombre de process et où on a besoin de tous ces métiers techniques, justement, dont on parlait. Il y a aussi peut-être besoin d'expliquer un petit peu plus ce que je vous disais sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire de dire que l'énergie nucléaire ne contribue pas au réchauffement climatique, nous permet d'être indépendants, d'avoir une énergie qui est souveraine. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le contexte actuel.
Le rapport au nucléaire des Français change avec les questions d'approvisionnement énergétique. Est-ce que l'image du nucléaire vraiment a changé ou il y a toujours cette idée que c'est pas écologique, que c'est dangereux, que le nucléaire c'est mal?
Alors ça, effectivement, comme vous le dites, c'est une idée. Nous, on est plutôt sur la rationalité et sur les faits. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte, on l'espère, et nous, on essaie de le promouvoir, que cette énergie, justement, elle est décarbonée, que cette énergie, elle nous permet d'être souverain et d'être indépendant des énergies fossiles. On le voit en ce moment, c'est important. Et elle nous permet d'avoir aussi toute une filière industrielle donc, qui sait construire, exploiter, maintenir et déconstruire aussi ces centrales. Et donc, cette filière pourra participer à la réindustrialisation de la France que le gouvernement appelle de ses voeux et qui permet d'avoir des boulots et des boulots intéressants pour les jeunes aujourd'hui.
Alors, la question du boulot intéressant, on a en France beaucoup de progrès à faire sur la question des voies professionnelles et de leur valorisation. On a beau dire, ce ne sont pas des voies de garage, c'est super, vous allez voir, il y a des débouchés. On n'y est pas encore, elles ne sont pas pleines, il y a des trous. On a besoin, par exemple, de 7000 soudeurs, rien que pour l'industrie, pour l'industrie en général, avec le nucléaire à l'intérieur. Comment faire comprendre que quand vous devenez soudeur, vous êtes hyper important?
Alors effectivement, le métier de soudeur, c'est un métier, je dirais, où vraiment qui n'est pas du tout un travail répétitif. C'est un métier sur lequel vous devez avoir des qualifications initiales, mais aussi une qualification par rapport au travail que vous allez effectuer. Et vous devez garantir que vous avez cette compétence. En fait, le soudeur, c'est un peu comme un pilote d'avion qui doit avoir un certain nombre d'heures de vol dans certaines circonstances. Vous savez que les pilotes, ils peuvent atterrir sur tel ou tel aéroport, pas sur tous, en fonction de la difficulté. Pour les soudeurs, c'est pareil. Et donc, c'est des gens qui ont une vraie expertise, une vraie compétence et qui sont évidemment essentiels dans des installations comme les centrales nucléaires ou les installations du cycle du combustible, parce que dans ces installations, il y a beaucoup de tuyauterie, il y a beaucoup de robinetterie et tout ça, ça tient ensemble grâce à de la soudure. Donc c'est vraiment des métiers avec une grande valeur ajoutée où on a la satisfaction de réaliser soi-même un travail, d'un travail bien fait. Après, il faut expliquer tout ça aux jeunes et essayer de les attirer dans ces filières parce qu'aujourd'hui, on a ce déficit d'attractivité, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous faites? Vous les emmenez voir des centrales? Il y a des parcours entre les écoles, au collège, où on va visiter, faire du tourisme industriel?
Exactement. Alors nous, au GIFEN, on essaye de faire ça, parce que c'est vrai qu'on sait qu'on est en manque d'attractivité. Donc on essaye notamment de développer toute cette mise en contact en fait, des jeunes avec le milieu industriel. On essaie d'organiser des parcours, alors d'aller leur expliquer dans les lycées, mais aussi de les amener sur le terrain, dans les centrales ou dans les entreprises, pour qu'ils appréhendent concrètement ce qu'est ce métier.
Vous avez l'impression que ça marche, que vous êtes en train de convaincre, que l'industrie fait encore rêver les jeunes où il y a aujourd'hui une autre attente professionnelle?
Alors clairement, l'industrie peine à recruter des jeunes. Hein, ça, on le voit depuis plusieurs années. Il y a une lente érosion de l'attraction dans les métiers industriels.
Mais vous voyez, moi, tout le monde me dit qu'il a du mal à recruter des jeunes.
Oui.
On a reçu la DRH de Sanofi la semaine dernière. Elle nous a dit exactement la même chose. Mais ils ne peuvent pas tous être sur TikTok. Donc, à un moment donné, où vont-ils les jeunes?
Alors, je ne sais pas où ils vont. En tout cas, nous, on aimerait bien qu'ils viennent dans notre filière. Et donc, on fait tout pour leur montrer qu'il y a un intérêt justement à travailler, qu'il y a un intérêt personnel, parce que c'est une filière dans laquelle on forme beaucoup les gens, dans laquelle on peut changer d'entreprise, on peut évoluer. Et aussi, il y a un intérêt collectif, comme je le disais au début. On est sur une énergie qui est bas carbone, qui contribue à l'indépendance de la France. Et donc, il y a une vraie fierté des gens qui travaillent dans cette filière. Et ça, on essaie de le donner à voir. Après, nous, on est un syndicat professionnel, donc on va avoir aussi besoin d'aide, peut-être d'aide du gouvernement, pour arriver justement à attirer toutes les personnes dont on va avoir besoin pour mener ce grand programme industriel qui a été annoncé par Emmanuel Macron.
Mais justement, est-ce que le défi humain n'est pas trop important par rapport à l'objectif industriel? Là, on est vraiment face à un problème humain.
Alors, il y a un défi qui est important. On le voit, le président de la SN a d'ailleurs parlé de plan Marshall. Hein, et on est bien d'accord avec cette vision des choses. Donc, il faut qu'on se donne les moyens pour y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. La France a quand même construit 58 réacteurs nucléaires, plus les usines du combustible qui vont avec en 15 ans, hein, dans les années 80, jusqu'au début des années 90. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On a cette compétence, cette filière, elle existe depuis 50 ans. Il y a 220 000 personnes qui maintiennent ce parc nucléaire qui a été construit dans les années 80. Donc il faut qu'on redonne à voir aux jeunes tout l'intérêt de venir nous rejoindre et de travailler dans cette filière.
Alors justement, vous parlez de l'âge d'or, hein, au moment où on construisait des centrales, pas facilement, c'est pas le bon terme, mais il y a eu en France une espèce de rupture sur le nucléaire. Oui. Est-ce qu'on a toujours les gens qui étaient justement forts dans cette filière et qui ont l'envie de transmettre à cette nouvelle génération, où cette rupture a fait finalement qu'aujourd'hui on a un fossé, on n'a plus cette génération qui a envie de transmettre?
Alors, il y a une rupture dans la construction de nouvelles centrales, puisque effectivement, à part Flamanville, donc depuis le début des années 90, on n'a pas construit de nouvelles centrales. Par contre, aujourd'hui, il y a 220 000 personnes qui travaillent et donc qui exploitent et qui maintiennent et qui font des travaux qui sont des travaux importants. C'est ce qu'on appelle le grand carénage sur les centrales. Et ça, c'est des personnes qui ont une compétence et qui, bien évidemment, ont envie aussi de la transmettre.
Et c'est pas une population qui est un peu désabusée, parce que moi, je vois notamment des ingénieurs dans le nucléaire me dire oui, mais ça fait des années finalement qu'on s'intéresse plus à nous, que le nucléaire c'est nul, et puis tout d'un coup maintenant il faut qu'on forme la nouvelle génération, qu'on ait des projets à 10 ans si ce n'est plus. Comment on fait eux pour leur redonner l'envie, leur dire oui, c'est une période qui est derrière nous avons changé et presque compris à quel point on a un petit peu raté quelque chose?
Alors La filière attendait avec grande impatience les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron le 10 février de vraiment prendre la décision de rentrer dans le renouvellement des centrales et donc dans ce grand plan industriel. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très positif, qui est très encourageant et qui est très enthousiasmant, même pour des ingénieurs qui sortent de cette période où il n'y a pas eu de construction de centrales. Au contraire, je dirais que ça redonne vraiment un élan à ces personnes qui sont là depuis longtemps dans la filière.
C'est une nouvelle ère sur le nucléaire.
Ah bah oui, c'est
une
nouvelle ère. Et effectivement, le fait d'attirer des jeunes et qui, eux, vont connaître cette période de construction, de grands travaux dans les centrales, enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif que si on avait été sur, on continue avec les centrales existantes et petit à petit, on les ferme.
Merci beaucoup, Cécile Arbouille, déléguée générale du GIFEN, le syndicat professionnel de l'industrie nucléaire, d'être venue nous voir, vous recruter, enfin pas vous personnellement, mais toutes les entreprises du nucléaire, du CAP à l'ingénieur. Tout le monde cherche du monde, il y en aura pour tout le monde. On va continuer à parler ressources humaines ensemble.
Merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et si vous faisiez le même job, mais plus près de chez vous, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Laure Wagner, bonjour. Vous êtes fondatrice d'un kilomètre à pied et vous vous dites, non, c'est facile.
C'est facile, on a créé un outil pour ça. En fait, nous, on est parti du principe que 75% des Français font leur trajet domicile-travail en voiture, alors qu'on a une nécessité de réduire les émissions de CO2 à cause de la crise climatique et énergétique. Et on s'est posé les questions avec mon associé. Ça coûte cher aussi, c'est vraiment l'actu, de comment faire en sorte que les Français prennent moins leur voiture. Et là, on s'est plongé dans les chiffres, vraiment les data INSEE, etc. Et on s'est rendu compte que, en fait, une grande partie de la population travaillait pour des employeurs multisites qui ont plein d'établissements sur le territoire et pourraient potentiellement faire le même job pour le même employeur plus près de chez eux. On crée un outil qui fait de la data analyse des trajets domicile-travail actuels, c'est un diagnostic mobilité. Et à partir de là, on identifie tous ceux qui pourraient effectivement avoir un poste plus près de chez eux. Au bout de quelques mois, là on a une trentaine de clients, le chiffre ahurissant c'est que c'est 62% des salariés de nos clients qui ont effectivement un poste plus près de chez eux.
Donc, comprends pas, ces gens ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas que c'était possible et l'employeur lui-même n'avait jamais fait le lien.
Exactement. En fait, les salariés, si, le savent, parce que, surtout quand ça se voit. Alors, il faut bien avoir en tête que 3/4 des actifs français sont des employés de terrain. Les fameuses premières lignes, les travailleurs du réel qui sont dans le retail, le BTP, la sécurité.
Donc, on n'est pas dans les télétravailleurs, c'est pas du tout ce marché-là.
Pas du tout. Même si les télétravailleurs, en fait, on arrive à, typiquement chez nos clients, la population des télétravailleurs, on arrive à voir ceux qui pourraient ne pas travailler au siège tous les jours, mais coworker depuis une agence ou un magasin plus près de chez eux. Ça, c'est possible. Puis, ça crée du lien. En plus, entre les différentes équipes. Mais là, parlons vraiment des travailleurs de terrain. Eh bien, en fait, bien sûr, s'ils travaillent chez Carrefour, Auchan, etc., bien sûr, ils passent devant et ils le voient. Mais je prends les agents de sécurité à qui j'ai parlé en bas et qui font respectivement une heure et demie, 48 minutes de trajet. Bah, eux, ils ne savent pas où est-ce que leur entreprise de sécurité a de la sous-traitance, dans quel immeuble. Ça ne se voit pas. Pareil pour la Sodexo, Elior, etc. Ça ne se voit pas quand on marche dans la rue s'il y a la possibilité de travailler plus proche.
Donc, c'est les entreprises qui n'ont pas d'enseigne visible. C'est vous ne savez pas pour qui exactement votre entreprise travaille.
Mais on travaille pour des enseignes visibles. On travaille pour Point P, par exemple, Saint-Gobain. Et malgré tout, si on fait pas, si on n'a pas notre outil, en fait, ça saute pas aux yeux. Les gens ne se plaignent pas forcément, ne demandent pas. Parfois, ils demandent à leur manager direct. Ce serait pas possible de travailler dans l'autre. Le manager direct, c'est pas son intérêt tout de suite de.
Il répond
de
tu m'appartiens, merci de rester ici.
Donc je ne sais pas, c'est compliqué. En revanche, quand du coup à l'échelle régionale, l'équipe RH a un outil et peut réaffecter de manière intelligente et que toutes les équipes soient gagnantes, parce que finalement le manager va récupérer un salarié en échange qui va lui aussi être plus proche. Tout le monde est gagnant et on voit que la raison pour laquelle nos premiers clients font appel à nous, c'est, alors il y a le climat bien sûr, mais c'est aussi pour la performance opérationnelle, tout simplement parce que quand on rapproche les salariés de chez eux, ils sont moins absents et ils s'engagent plus dans la durée dans l'entreprise.
Donc vous les réaffectez à un pôle plus près de chez eux, mais du coup une fois que vous avez fait ça, c'est fini votre business à vous?
Alors, on est en train de parler de 62% des salariés des grandes entreprises. Et en fait, quasiment la moitié des employeurs français sont des employeurs multisites, sans compter les collectivités, les services publics. Donc en fait, c'est un peu, désolé en anglais, mais never ending project, quoi. En fait, on n'aura jamais terminé, parce qu'une fois, mettons qu'ils se donnent à fond et réaffectent tous leurs salariés, eh bien en fait, chaque année, il y a 10% des foyers français qui déménagent, il y a potentiellement le siège régional de un tel qui déménage, et du coup, ça change à nouveau les trajets. Donc en fait, et puis il y a 15% de turnover aussi, même si on va va contribuer à le faire baisser. Donc en fait, il y aura toujours besoin d'un outil comme nous, de mobilité interne géographique, pour que tout le monde, à un moment donné, soit au plus proche.
Du coup, quand vous allez vendre votre solution au DRH ou aux directeurs généraux, vous leur dites quoi? Vous leur dites c'est un moyen de s'intéresser à vos salariés. Vous allez voir, ça va leur faire plaisir.
Ça va leur faire plaisir.
C'est du care, quoi.
Et aussi, bon, on est très héroïste, hein, du coup, comme il y a des corrélations directes entre distance, domicile-travail et absentéisme et turnover,
en fait, vous dites ce qu'ils vont gagner.
Exactement. Et puis le bonus, effectivement, c'est que ça va réduire aussi le bilan carbone, le besoin de parking, améliorer, évidemment, enfin... La raison pour laquelle ça baisse l'absentéisme et le turnover, c'est que ça améliore la qualité de vie, c'est évident. Ça fait gagner du temps, de l'argent aux salariés, surtout là en période de d'inflation.
L'essence à 2 euros.
C'est vraiment super important de le faire.
Vous, vous avez été porte-parole chez BlaBlaCar, donc vous vous êtes bien, bien imprégné de la culture voiture, enfin de la question de la voiture. Qu'est-ce que vous y avez constaté sur les rapports avec le travail ? Aujourd'hui, on voit que fondamentalement, les Français sont en difficulté quand ils doivent aller à leur travail et qu'ils ont plus de 50 km à faire par jour. Là, ça commence à être très cher sur le budget. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Il faut solutionner ça.
Bien sûr. Alors, quelques chiffres. Dans les années 60, le trajet domicile-travail moyen des Français était de 3 km à l'aller, il y a 60 ans. Aujourd'hui, il est de 13,5 km, le trajet domicile-travail à l'aller. Je me suis plongée dans les chiffres quand j'étais chez BlaBlaCar, justement. On a lancé BlaBlaCar Daily, l'application des trajets domicile-travail. Eh bien, ceux qui s'y intéressaient à l'époque quand j'ai lancé, si, maintenant, il y a même plus de 2 millions de Français qui l'ont téléchargé et qui font du covoiturage, mais ce sont les gens qui ont des trajets plus longs que la moyenne, plus de 20 km. Et à l'inverse, ceux qui font du vélo, déjà c'est en ville, il faut avoir de la piste cyclable, et le trajet moyen à vélo c'est 3 km. Donc plus de 20 km on se met au covoiturage, 3 km on peut faire du vélo, et au milieu en fait, et c'est pour ça qu'on s'est dit avec mon associé, faut proposer quelque chose, réduire les trajets, quitte à ce que les gens continuent à faire leur trajet en voiture, mais au moins sur des distances moins longues, parce qu'il n'y aura pas des pistes cyclables partout. Et alors bien sûr il faut pousser le covoiturage, et avec nos clients, on fait les dispatchs des salariés, mais on les aide aussi sur leur plan de mobilité employeur, et on permet d'identifier d'où viennent les salariés, quelle ligne, quelle axe.
Et vous leur proposez de se regrouper pour qu'ils se mettent ensemble.
Exactement, mais en passant quand même par un BlaBlaCar Daily ou autre, mais simplement on fait la stratégie de savoir combien sont en voiture à plus de 10 km et seraient bien dans la cible, et quel axe on va lancer, et surtout que si ça covoiture pas, qu'ils puissent se dire quand même dommage, parce qu'on avait bien vu la data qu'en fait il y en avait plein qui pouvaient covoiturer, donc ça leur met un peu un objectif à atteindre, de la même manière pour le vélo. Quand ils savent qu'ils ont 57 salariés avec un trajet nickel à vélo, et qu'en fait c'est juste une notion de faut les remettre en selle, les remettre en confiance, ils savent que s'il n'y en a que 3 qui viennent à vélo, ils ont encore une marge de progression sur de la transformation à mener en interne.
Il vous dit quoi, Frédéric Mazella, le patron de BlaBlaCar? Il vous dit vas-y, continue, puis on te rachètera dans 2 ans?
Tiens, alors rachètera dans 2 ans, c'est pas le plan. BlaBlaCar fait pas de B2B, donc mais par contre il dit
ça peut être une idée,
quoi. Pourquoi pas, la porte est ouverte. Mais pour l'instant c'est plus on est resté évidemment en contact, on a un partenaire à nous avec BlaBlaCar Daily, et effectivement ils sont très fiers, que d'autant plus que j'ai une histoire particulière avec BlaBlaCar. J'étais leur toute première collaboratrice en fait en 2009. Je suis restée 11 ans à travailler à leur côté, donc c'est un peu une fierté pour eux aussi d'avoir leurs anciens salariés qui créent et qui continuent la mission en fait de mobilité durable.
Rien ne vous fait peur alors? Sur le développement d'une start-up, rien ne vous fait peur?
Oui, je suis vraiment drivée par la mission, pour le coup, d'impact, d'aller réduire les trajets en voiture. Donc avant, je le faisais par le biais du covoiturage, et maintenant, je le fais par la réduction des distances.
Merci beaucoup, Laure Wagner, d'être venue nous voir, fondatrice d'Un Kilomètre à Pied. On va parler d'avantages salariés.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Parfois, en tant que salarié, on aimerait bien avoir un assistant de vie pour nous aider au quotidien. Et c'est ce qu'a tenté de créer Stéphane Dixmier. Vous êtes président de Bimpli et vous avez créé un assistant de vie pour les salariés.
Alors, on dit Bimpli. Bimpli. Voilà. Bimpli, c'est une entreprise, c'est une marque, c'est une mission. Réenchanter le quotidien des salariés. Alors, comment ça se matérialise? Pour les salariés, pour l'essentiel, c'est une super app qui regroupe tous ses avantages. C'est un moyen de paiement, une smart card. Pour les entreprises ou les employeurs qui financent ces dispositifs d'avantages salariés, nous accompagnons les salariés au quotidien. Et puis, nous leur simplifions la vie dans la gestion de leur politique sociale.
Alors, réenchanter le quotidien des salariés, c'est à peu près le but de chaque invité qui vient sur ce plateau. Mais parfois, ça se transforme un peu en enfer quand il y a trop d'envie de réenchanter le quotidien des salariés. On multiplie les applications de ci, de là, l'application de compliments, l'application pour mes notes de frais, l'application pour mes avantages. Là, c'est quoi ? Il y a tout dans une seule app ?
Dans une seule app. Une seule app, ça veut dire un seul mode d'accès, plus différentes applications, plus différents mots de passe. Vous avez dans la main, ou en tout cas dans votre téléphone, tous les dispositifs d'avantages salariés dont vous bénéficiez. Et donc, vous en avez la gestion, l'utilisation, de manière très, très simple.
C'est-à-dire, j'ai plus de carte ticket resto, j'ai uniquement l'application, j'ai plus ma carte cadeau, ça, tout passe par ça.
Vous avez une carte avec votre titre restaurant. Si vous avez de la mobilité, bah vous avez votre titre mobilité. Si vous avez du cadeau, bah vous avez du titre cadeau. Et dans votre application, si vous avez du chèque emploi service universel, vous voyez, Bimpli, c'est une large gamme d'avantages salariés. Vous avez tout dans la même application.
Et je peux aussi créer des cagnottes. J'ai vu
et
ça dans votre communiqué de presse.
Vous pouvez aussi créer des cagnottes, puisque quand on veut réenchanter, bah, il faut s'occuper de ce qui préoccupe les salariés. Un salarié, aujourd'hui, veut utiliser des applications qui soient aussi friendly dans son monde professionnel que dans sa vie privée. Les salariés, de manière générale, dans notre pays, il y a quand même des problématiques de pouvoir d'achat, de bien-être financier. On prend ça aussi pour une partie en charge grâce à nos solutions. Il y a une conscience environnementale de plus en plus importante dans le pays. Ça touche donc tous les salariés. Ces valeurs sont aussi prises en compte dans l'élaboration de nos solutions.
Il faut qu'il y ait des avantages salariés pour que votre application Super App fonctionne. Donc, il faut aussi convaincre les entreprises que c'est important d'avoir des tickets resto, d'avoir des avantages cadeaux. Ça fait partie de votre discours auprès des DRH, des DG pour vendre la solution. Mais... où vous arrivez et déjà tout est existant et vous vous dites juste agrégé à l'intérieur.
Ah non, on développe bien sûr ces solutions in-house, à la maison. Et puis on s'associe aussi avec des partenaires qui sont des leaders ou les meilleurs, tout simplement, de notre point de vue, dans leur domaine. Puis vous savez, aujourd'hui, la politique sociale des entreprises évolue. Les DRH en recrutement ont besoin de fidéliser leurs talents, d'avoir des collaborateurs engagés, d'attirer de nouveaux talents. Et aujourd'hui, on constate que non seulement le salaire est important, mais toute la qualité de vie au travail, tous les dispositifs mis en place pour les salariés dont font partie les avantages salariés sont hyper importants pour attirer.
Vous êtes sur un marché où il y a pas mal de concurrence de jeunes startups qui ont plein d'idées et qui lancent plein d'applications différentes. Alors parfois sur des petits segments, parfois sur des gros segments. Vous êtes l'émanation de BPCE. C'est quoi l'argument ? C'est de dire on est une grande banque, ça rassure, on sera toujours là dans 2 ans ?
Non, déjà, vous l'avez compris, notre leitmotiv, c'est bien réenchanter le quotidien des salariés.
Oui, mais vous êtes une entreprise quand même.
On est une entreprise.
Vous n'êtes pas une ONG.
On n'est pas une ONG, vous avez raison. Bimpli a été créé à partir d'expertise de multiples entreprises. Et évidemment, notre job, c'est d'accompagner les entreprises et de leur expliquer comment avoir le maximum d'impact et optimiser leur investissement. Parce que les avantages salariés, c'est un investissement réalisé par l'entreprise pour justement fidéliser et attirer leurs talents.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que le fait d'être une émanation de BPCE est un argument ?
Oui, c'est un argument dans la solidité des solutions qu'on met en place, dans leur conformité à la réglementation.
Parce qu'on est très sollicité quand on est DRH et DG par des tonnes de start-up et on ne sait pas toujours si justement la solution va perdurer, si c'est une bonne idée, si on ne se fait pas avoir par le discours marketing.
Vous avez un côté durable. Et vous savez, le groupe BPCE, on appartient à un campus fintech, d'ailleurs, dans le cadre du groupe BPCE, habitué à l'innovation. Et c'est un groupe qui est habitué à l'innovation et qui favorise justement tout le développement de ce type de solution. Quand on parle du groupe BPCE, c'était le premier dans le monde de la banque, par exemple, à déployer Apple Pay. Vous voyez, c'est un exemple. Et donc, évidemment, nous sommes soutenus pour effectuer ces innovations. Et puis, on a un caractère durable. On accompagne nos clients depuis de nombreuses années et on accompagne leur transformation.
Bimpli, la nouvelle application d'avantages salariés. Merci Stéphane Dixmy d'être venu nous voir. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business. Si vous voulez écouter l'émission en podcast, il suffit de scanner le QR code qui apparaît juste à côté de ma tête. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.